Accès libre avec Luc Fortin.
Hit, Jean-Sébastien, j'étais ému ce matin. J'étais sur le trottoir de devant chez moi, au soleil. Belle journée d'automne. J'attends mon transport adapté. Parce que, bon, pour me rendre ici, en tout cas, il y a une intersection qui est un petit peu périlleuse. Ils n'ont pas encore mis de feu sonore. Je reçois un texto, toi. Bon, habituellement, quand je reçois un texto, c'est parce que je l'ai manqué. Là, je me dis, 3-4 minutes! C'est extraordinaire, c'est la révolution, c'est une nouvelle vie. Les gens là, qui sont pas capables de mettre leur manteau tout seul, leurs bottes, qui sont obligés de demander à un préposé des habillés puis des mettre dans le portique pendant une demi-heure puis ils ont chaud. On va recevoir un texto. C'est extraordinaire, j'en viens pas, j'étais ému. Pas nécessairement pour moi, mais pour tout ce monde-là qui pour qui c'était vraiment, vraiment un problème. Ça fait longtemps qu'on attend ça. C'est en train de s'installer et wow! Vraiment. J'espère que vous allez aussi bien que moi, à la maison. Aujourd'hui, un peu de Montérégie. On va aller également du côté de Saguenay, du Bas-Saint-Laurent, et on part en Mauricie. Ben, je sais bien... Si j'avais pas de place pour rentrer. Je le sais, c'est ce que je me suis dit après. Qu'est-ce que tu voulais qu'ils disent?
Hey, Jean-Sébastien, je suis content. Que... après ça, il part sur une lancée.
Bon, mais... OK. Toi, ton scooter est-il réparé?
Non. Okay. Moi, c'est des moins bonnes nouvelles que toi aujourd'hui.
OK. Moi, mais c'est parce que moi, je parle au nom de tous ceux et celles qui sont en transport adapté.
Et on est très contents, tout vraiment, qu'on soit rendu là. Enfin.
Tout à fait. Enfin, certain. Martin Caouette, bonjour.
Bonjour, M. Fortin.
Vous êtes professeur au département de psychoéducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Vous êtes également titulaire de la chaire de recherche dont il est question aujourd'hui, puisqu'on a lancé la chaire de recherche autodétermination et handicap il n'y a pas si longtemps.
Oui.
Bon, je la pose pour les autres, mais je la pose pour moi aussi. Qu'est-ce qu'une chaire de recherche versus un département qui investit dans la recherche?
Ben, en fait, une chaire de recherche, c'est une structure à l'intérieur de l'université qui nous permet de concentrer, en fait, des ressources pour approfondir une question particulière, autant sur le plan de la recherche, mais aussi sur le plan de la formation. Donc, la chaire, ce qu'elle va permettre, en fait, c'est de générer différents projets de recherche qui vont nous permettre de mieux comprendre comment soutenir l'autodétermination des personnes en situation de handicap, particulièrement celles qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Puis à la fois, bien, on va faire en sorte que les résultats de ces recherches-là se transforment en moyens, en modalités de formation puis de développement de compétences là, pour tous ceux qui sont concernés par ce thème-là.
Autodétermination, ce serait la façon que Denise Bombardier dirait empowerment?
Ben en fait, ça se rapproche de l'empowerment, en fait, mais c'est cette idée-là de faire en sorte que la personne en situation de handicap là, puisse avoir le pouvoir d'agir, de prendre des décisions pour elle, puis qu'elle ne soit pas toujours dans un contexte où d'autres prennent des décisions pour elle. C'est un défi particulier, notamment pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle.
Ouais, c'est sûr. Maintenant, comment on finance une chaire de recherche? C'est sûrement pas juste l'université qui met de l'argent là-dedans.
Ben là, ce qui est intéressant, en fait, pour ce qui est de cette chaire de recherche, c'est ce qu'on appelle une chaire de recherche en partenariat. Mmh. Donc, il y a quatre partenaires principaux. Donc, il y a d'abord le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ici en Mauricie, qui a un institut universitaire en déficience intellectuelle qui finance, puis également un centre de recherche de la région de Québec également, qui propose une partie du financement. Il y a deux autres partenaires également, donc le groupe Jules Dallaire, là, qui, par une action philanthropique, donne des sous également pour soutenir la chaire. Puis un partenaire français également, donc une association française également dans le secteur du handicap qui met également là, l'épaule à la roue là, pour donner une part du financement.
Il y a, je sais pas, peut-être 2-3 ans, je crois me souvenir d'avoir causé avec des gens qui étaient également affiliés avec l'UQTR, qui avaient mis sur pied une application avec des couleurs pour que les personnes en déficience intellectuelle puissent être de plus en plus autonomes. Donc, déjà, l'UQTR s'intéresse à la personne et la déficience intellectuelle. Qu'est-ce que la chaire de recherche va ajouter à ce qui existait déjà?
Bien, ce qu'on vient ajouter, en fait, c'est ces deux volets particulièrement, c'est qu'on va travailler vraiment surtout le volet habitat. Puis l'habitat, en fait, okay. C'est pas simplement là, le logement, mais c'est vraiment le milieu de vie de la personne. Ce qu'on cherche à faire, puis ça, sur quoi on travaille déjà, c'est de développer des milieux de vie, en fait, qui vont permettre à la personne là, de pouvoir... je dirais, circuler, puis fonctionner à l'intérieur, finalement, de son environnement immédiat, son quartier, sa ville, en étant le plus possible autonome. Puis, une des façons d'y arriver, c'est justement de développer des modèles résidentiels qui ne seront pas des modèles où la personne, elle est prise en charge. Moi, j'aime bien utiliser l'expression d'un chez-soi. Faire en sorte que, quelle que soit notre situation, on puisse avoir accès à un chez-soi. Puis, un chez-soi, ben c'est un milieu dans lequel je peux exercer du contrôle, où je peux... décider de mon horaire, où je peux, par exemple, choisir ce que je vais manger, je peux recevoir des amis. Puis ça, c'est pas toujours gagné pour les situations, pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Puis du même ordre d'idée également, on va développer aussi, on va travailler à faire en sorte de développer des modèles qui permettent à la personne d'avoir une occupation du temps également qui est significative pour elle. Donc, c'est cette idée-là aussi de faire en sorte de dépasser, je dirais, le milieu occupationnel pour avoir un milieu qui nous permet de développer, d'exercer des compétences.
Mais concrètement, là, ça va plus loin qu'un agenda clair.
Ça va plus loin qu'un agenda clair. C'est cette idée-là, finalement, un peu comme on le vit tous, de pouvoir évoluer, en fait, professionnellement. C'est-à-dire que, on ne fait pas la même chose à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Il y a des nouveaux défis qui nous apparaissent sur le plan professionnel. On a des nouveaux défis, on a peut-être des nouveaux loisirs, des nouvelles activités qu'on se propose de réaliser. Bien, c'est de faire en sorte que la personne elle puisse avoir des choix également, puis qu'on ne soit pas dans une optique de lui trouver une place en un endroit, mais qu'on puisse lui proposer différentes possibilités, là, puis qu'elle puisse se développer à travers tout ça.
Vous me donnez un exemple de type de choix qui pourrait être offert?
Ben, l'idée, en fait, c'est notamment là quand on pense à une personne qui a une déficience intellectuelle puis arrive l'âge de 21 ans.
Ouais.
Pour plusieurs parents, là, c'est le trou noir, en fait. Qu'est-ce que mon enfant va pouvoir avoir comme activité? Ben, c'est l'idée de faire en sorte là qu'autour de la personne, on se coordonne puis faire en sorte qu'on lui offre différentes possibilités. Par exemple, ben, est-ce que je suis une personne qui souhaite me retrouver dans un milieu, par exemple, comme un milieu où, de travail qui est plus adapté? Est-ce que je souhaite travailler plutôt dans un milieu régulier? Ou si, au contraire, ben moi, c'est pas tant un emploi que j'ai besoin pour le moment, mais plus de continuer à développer des capacités, des compétences dans un milieu qui s'apparente plus à un milieu scolaire. Donc, c'est d'avoir ces options-là. Pour plusieurs parents, actuellement, les options sont très limitées, puis les jeunes adultes aussi n'ont pas nécessairement devant eux des options. Ils sont souvent beaucoup plus limités en termes de choix, puis on veut faire en sorte de travailler avec les différents réseaux pour élargir ces choix-là, puis accompagner les personnes pour être capables de nommer ce qu'elles souhaitent, leurs préférences, les différentes possibilités qui s'offrent à elles.
Mais j'ai un petit peu de difficulté, Martin Caouette, à comprendre la différence entre, supposons, ce qu'un organisme pourrait faire en s'assoyant avec un de ses membres qui a une déficience intellectuelle, puis, je sais pas, moi, si c'est en loisir ou en lui disant, bon... as-tu du temps? As-tu envie de faire plutôt du culturel, genre de la peinture, des arts, ou bien du sport? Et est-ce que tu sais comment te rendre au centre sportif? Est-ce que tu veux qu'on te montre à prendre l'autobus versus une chaire de recherche qui va s'intéresser justement au quotidien, au mieux vivre et à... J'ai de la difficulté à voir la différence.
Bien, en fait, ce que vous avez décrit, hein, par exemple, dans un premier temps, cette possibilité-là de s'asseoir avec une personne puis lui proposer différentes choses, bien, dans les faits, actuellement, ça se fait pas toujours.
Ah oui, OK.
C'est pas toujours le cas pour toutes les personnes. Fait que l'idée, sur le plan de la recherche, c'est de comprendre pourquoi ça se fait pas toujours. Ils sont où les barrières, finalement, à ces possibilités-là? Comment ça se fait que ça se fait pas? Et sur le plan de la recherche, c'est d'être capable de le comprendre puis ensuite de proposer des solutions. Parce que ce que vous avez décrit, c'est un peu une situation idéale. Hein? Ce serait, par exemple, d'accompagner une personne qui arrive à l'âge de 21 ans puis de voir avec elle ben, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qui lui plaît, dans quel type d'activité elle souhaite s'engager. Ça, ce serait vraiment l'idéal. Mais dans les faits, c'est pas ça qui se passe dans bon nombre de situations. Fait qu'on veut comprendre pourquoi ça se passe pas puis comment faire en sorte que ça puisse être possible. Comment faire en sorte qu'on puisse mieux accompagner les personnes puis qu'elles puissent avoir accès à davantage de choix.
Bon, on parle du lancement de la chaire de recherche autodétermination et handicap. Donc, c'est quand même assez large comme, comme clientèle, si on veut. Est-ce qu'on a parlé de déficience intellectuelle, mais je sais pas, moi, faites-vous de l'autisme, faites-vous du sensoriel, faites-vous...
Pour le moment, principalement, on se concentre sur les besoins des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, mais en travaillant sur ces situations-là, évidemment, ça génère des idées également, ouais, des ouais. possibilités pour d'autres formes, d'autres situations de handicap. S'autodéterminer, hein, c'est être capable d'avoir du pouvoir sur sa vie, prendre des décisions. L'exemple que vous avez donné au tout début de l'émission en était un, hein, juste avoir accès à une information qui permet de savoir que ça y est, c'est le
quand
moment
sortir
là,
de
préparer.
C'est ça, ouais. Ouais.
C'est un exemple. Donc, c'est cette idée-là, hein, de mettre de l'avant que peu importe la situation de handicap, là, on a tous besoin d'exercer un contrôle puis d'avoir du pouvoir sur sa vie. Donc, même si d'entrée de jeu, on est davantage centré sur la déficience intellectuelle puis l'autisme, c'est bien certain que les retombées pourraient rejoindre des personnes qui ont d'autres types de besoins.
Vous parliez d'un partenaire français, c'est surtout du financement où il y aura des échanges, des Français qui viendront ici, peut-être des gens d'ici qui iront là-bas?
Il y aura des échanges. Il y a déjà eu des échanges. On a déjà commencé, en fait. On a déjà à deux reprises accueilli des professionnels de milieux de pratique français qui sont venus faire des séjours ici au Québec pour voir un peu comment on fonctionne puis venir s'inspirer de nos pratiques. Inversement aussi, il y a des Québécois qui sont allés. Il y a des activités de formation également qui sont offertes en France à partir là, de l'expertise qu'on a développée ici au Québec. Donc, l'idée, c'est d'avoir cette structure-là pour venir renforcer ces échanges-là. On a tout à gagner, en fait, de partager là, de part et d'autre là, ce qui se développe.
Est-ce qu'on a déjà annoncé, disons, une période, à savoir, les partenaires investissent pour tant d'années, puis ensuite, on verra où on s'en va. Est-ce qu'une chaire de recherche a une date de péremption?
En fait, ce qu'on a annoncé, c'est pour les 5 prochaines années.
D'accord.
Vraiment, où on veut travailler plus en profondeur ces questions-là ensemble. Mais c'est sûr que le défi, hein, puis c'est le défi qu'on a sur le plan de la recherche...
C'est la pérennité.
La pérennité, puis s'assurer de faire en sorte que on produit des résultats de recherche, mais moi, c'est une grande préoccupation que j'ai aussi de faire en sorte que ces résultats-là de recherche, les gens, les acteurs du milieu puissent les approprier, puis mettre en action des choses aussi autour de ça. Il ne faut pas simplement produire des résultats pour en produire. Si ça ne vient pas changer ce qui se fait dans la pratique, ben finalement, c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc, à travers tout ça, on veut structurer autant la recherche, puis autant les activités là, de formation pour avoir un impact là, concret sur la façon dont les services sont organisés.
Bon, en terminant, je remarque que vous êtes professeur. Il y a pas mal d'universitaires là-dedans. En même temps, il me semble que le communautaire et le plancher des vaches est important. Il faut l'entendre. Je présume que dans vos organismes locaux partenaires, on s'informe de ce côté-là?
Oui, absolument. Ben, en fait, il y a les 4 partenaires que je vous ai nommés, mais il y a aussi une quinzaine de collaborateurs.
Okay.
Les collaborateurs, en fait, c'est principalement des organismes communautaires qui vont profiter ou vont travailler conjointement avec nous autour des résultats qu'on va produire. C'est important de pas développer des projets de recherche là, que moi j'appelle dans l'absolu, là,
ouais,
qui
ouais,
viennent répondre
fait.
À des besoins concrets puis des enjeux là, qui préoccupent les personnes directement. Donc, c'est aussi une façon d'être en contact direct avec les personnes qui vivent les situations de handicap, leurs proches, les organismes qui les soutiennent. Donc, on a vraiment une quinzaine de collaborateurs, là, milieux scolaires, organismes communautaires qui sont vraiment répartis là, un peu partout au Québec et en France. Donc, ça nous donne un beau réseau, là, un beau tissu, je dirais, là, de soutien pour faire avancer les activités de la chaire.
Ben, une belle aventure qui s'installe pour au moins 5 ans. Souhaitons qu'il y ait des dividendes concrets qui sortent de ça. Merci beaucoup, Martin Caouette.
Plaisir, merci à vous.
Il est professeur au département de psychoéducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières, également tuteur. De la chaire, finalement. Semble-t-il qu'on dirait, on dit pas directeur, mais tuteur, je pense, pour une chaire de recherche. Some people ask me why I'm always on the bright side when there's so much going down on the other side. It's like I live in a bubble with no trouble and problems don't exist. I check on them, that ain't the case at all. It goes back to the time when I was very small. I didn't mind but size and age, my papa used to say. You can always look at the negative, but you should always live in the positive. So I try every day to live in that way. Yeah.
mother could have been as opposed to living in what is and how much they can and be the first to complain about nothing in life going their way. The attitude's dead and I can't do nothing about and very happy with just breathing in and out. The ones that when you say let's go make a difference they'll say nah, that's okay. So I don't waste time on the trip side because I do know the real on the flip side and I'm crystal clear every day. That's why I an optimist when it's more fashionable to be a pessimist from what's in 75% of what we read here in view. Well, I used to have a friend named Minnie Riperton who used to always say when she was living like fine wine, I like seeing the glass of life as half full and half empty. I'm not saying sometimes life can be rough, but never to the point of me saying I've had enough. As long as my heart beats, I'm giving up. That's why I say every day, yeah, 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 yeah. American, what do I see for tomorrow in the human plan? Is it possible for all people of the world to coexist? I say unity is only as big as our vision, and if it's now, strive to expand beyond the horizon. But truly, this must guide us through the ills of society that stand in our way. So if the road is to harmony, be with the call. But if it's about discord, don't take the ride at all. Cause the world vision I see is the one we for everybody.
Fait du bien d'entendre Stevie Wonder, peut-être un peu moins connu, mais qui quand même met le sourire et met la table. Puisque Positivity, je présume que c'est un petit peu ce sur quoi Serge Savoie veut que l'on quitte la salle après sa conférence. Salut Serge!
Bonjour, Monsieur Fortin, ça va bien?
Ben oui, Luc, c'est en masse. Serge, le titre, parce que je peux pas croire, mais là, déjà je me suis avancé, là, je te dirai pas le titre que j'ai en haut de ma feuille. Quel est le titre de ta conférence?
Le titre de la conférence est « L'aveugle de Compostelle, c'est un gars de Chambly ».
OK, c'est ça que j'avais. Bon,
ah oui.
Ça aurait pas été mon choix, disons que... Ben, c'est parce que j'imagine que t'es pas le seul aveugle qui a fait de Compostelle. Ben, peut-être de Chambly, par exemple, ça se peut. Ça se peut.
En plus, j'ai même pas fait de Compostelle quand j'étais aveugle. C'est un peu ça, la twist. Il va falloir venir assister à la conférence pour savoir pourquoi j'ai donné ce titre-là. Mais sinon, c'est plus tard.
Et justement, oui, parce que la conférence n'a lieu pour la première fois que le 9 novembre, si je dis des niaiseries, tu m'arrêtes, qu'on s'est croisés peut-être trois fois, donc on se connaît pas beaucoup, un petit peu là, ta situation visuelle, qui es-tu, disons, un CV en une minute et quart.
Bon, ben écoute, moi j'ai 48 ans, père d'une petite fille de 8 ans, et j'ai perdu la vue il y a 10 ans, ça a fait 10 ans l'été passé en fait, puis donc des suites d'un glaucome, cataracte congénitale, tout le tralala. Donc dans la conférence, c'est un peu de ça que je vais parler, l'aveugle de Compostelle, je vais parler de ma déficience visuelle qui a marqué ma vie là, depuis ma toute jeune enfance jusqu'à aujourd'hui. Okay. Il y a eu différentes étapes là-dedans, puis Compostelle, ben c'est un lien un peu, oui c'est Compostelle, mais c'est aussi un peu la spiritualité pour moi. Donc voilà, c'est un peu ça. Puis de Chambly, ben c'est le troisième élément, c'est que je veux parler de ma ville que j'aime beaucoup et où sont mes racines.
Oui, et d'ailleurs, le temps permettant, on parlera un petit peu de tes implications parce qu'elles sont quand même assez concrètes dans ton patelin. T'es retourné aux études après le diagnostic. Oui. Qu'est-ce que tu voulais apprendre que tu n'avais pas appris avant?
Ben en fait, j'ai toujours aimé étudier et tout ça. Quand je suis retourné, en fait, c'est pour faire un diplôme d'études spécialisées à l'Université de Montréal en intervention en déficience visuelle. Ayant reçu des services de l'Institut Nazareth et Louis Braille, je me disais, moi je suis un psychoéducateur de formation, puis je me disais, voilà, un beau complément à ma formation. Puis j'avais quand même à un moment donné l'objectif d'aller travailler à l'Institut Nazareth. Bon, pour l'instant, c'est un peu sur la glace ce projet-là, mais c'était ça la raison du pourquoi.
As-tu fini le diplôme? As-tu...
Oui.
OK. Est-ce que tu as trouvé ça difficile? Parce que, bon, je sais pas où était ta vision avant le diagnostic puis après le diagnostic, parce que, bon, si tu dis cataracte congénitale, j'imagine que tu as eu des problèmes visuels toute ta vie?
Oui, toute ma vie, effectivement.
Alors, oui?
Ben, j'allais dire, en fond, pour répondre à la question, avant que je perde la vue complètement, là, il y a 10 ans, j'avais une vision relativement correcte. Je voyais juste d'un œil, mais c'était quand même assez bien, assez quand même pour conduire une voiture.
Oh, OK.
Ça donnait déjà une image, là. Donc, ceci dit, j'ai commencé à conduire une voiture sur le tard. Mm-hmm. Il y a des longues explications, tout ça, que je ne ferai pas maintenant. Mais voilà, en gros, là, c'est un peu ça.
Le diagnostic est tombé combien de temps avant le premier des 10 anniversaires que tu as souligné l'été passé en grande pompe?
Oui. J'avais du glaucome depuis l'âge de 15 ans. J'ai perdu mon œil droit à l'âge de 15 ans. Puis à 37 ans à peu près, on m'apprend que le glaucome est dans le tapis, dans mon œil gauche, celui qui me restait. Donc, c'est un peu ça. Voilà.
OK. Ouais. Ouais. Fiston est un petit peu dans la même veine, là. Toi, lui, il travaille encore gros caractère, mais il n'a jamais pu conduire une voiture. Mais c'est jamais clair, là, le reste du visuel, qu'est-ce qu'il va garder quand. On s'attend à ce qu'il perde ce qu'il a. Donc, toi, est-ce que c'est une appréhension que tu as eue toute ta vie?
En fait, non. Je te dirais que c'était comme un peu, peut-être un peu de déni ou quoi que ce soit, mais je faisais juste pas penser à ça.
Okay.
Je vivais ma vie, puis en plus, j'explique ça aussi dans la conférence, moi, j'ai suivi les traces de ma mère, puis à ce jour, elle va avoir 78 ans bientôt, puis elle voit encore de son seul œil, parce qu'elle aussi avait perdu son œil le plus jeune, tout ça. Donc moi, dans ma tête, je me disais, bon, ça va être comme ma mère, puis regardez cette stabilité-là, cet œil gauche-là, qui voit comme il voit, elle va garder ça longtemps, mais finalement, la vie en a décidé autrement.
Est-ce que Compostelle a vraiment joué un rôle important dans ton parcours ou c'est juste du bon stock pour une conférence pour les voyants?
Non, quand même. Un peu des deux, je te dirais. Premièrement, le titre, moi, t'aurais pas fait ça. Mais moi, je le trouve, quand j'ai eu cette idée-là, je l'ai trouvé catchy, un peu comme disent les Chinois. Là.
Ouais, ouais.
Mais non, ça a quand même eu, une très bonne importance pour moi. Dans le fond, j'ai trouvé avec le recul que faire le chemin de Compostelle, ben c'est un peu une analogie avec la vie.
Ouais.
En général, il faut un peu... En tout cas, moi, ça m'a un peu fait voir la vie sous un autre angle. Puis en fait, ce qui arrive, c'est que c'est pas longtemps après mon retour de Compostelle, suite à mon rendez-vous annuel chez mon ophtalmologiste, que là, il m'annonce que le glaucome est dans le tapis, dans mon œil gauche. Et moi, aujourd'hui, ben, j'établis un lien avec les deux. On dirait que si j'avais pas fait Compostelle, j'aurais peut-être pas été prêt à devenir aveugle. Mais bon, comme j'explique dans ma conférence, j'en suis pas encore tout à fait à point dans ma propre explication à moi-même. Donc voilà, c'est de l'intuition. Il y a quelque chose que pour moi qui a un lien entre les deux, mais je l'explique pas encore tout à fait. Voilà.
Serge, régulièrement, on m'a posé, bon là un peu moins là depuis que je fais plus de télé, mais souvent les gens voulaient que je leur raconte ma vie puis tout ça.
Ouais.
Et je n'aimais pas ça. J'ai jamais jugé que j'avais quelque chose vraiment de si intéressant que ça. Comment faire ou comment tu peux juger que toi tu vaux le déplacement? Parce que c'est un peu ça, hein, c'est ta vie finalement
qui. Oui. Fait. Ben écoute, c'est drôle, parce que jamais j'aurais pensé ça avant. Je suis quelqu'un de plutôt réservé et tout ça. Mais à un moment donné, faire une histoire courte, j'ai fait quelques petites conférences là, intimes, puis les gens me disaient que j'avais une bonne façon de communiquer, ouais. Que ce que j'amenais, c'était bien intéressant. Puis, il faut savoir, tu sais ça toi aussi, Luc, là, que les gens, quand ils nous questionnent sur la perte de la vue et tout ça, moi, en tout cas, ce que je remarque, c'est que les gens sont avides de comprendre, parce qu'ils se mettent dans notre position, puis moi, je le sais, je les entends dans leur tête en train de se dire, tabarouette, comment que je ferais, moi, si j'avais pas la vue, et tout ça. Donc, et de fil en aiguille, puis en plus, moi, j'ai eu la chance de faire, de participer à 2-3 plateaux là, de télévision, puis tout ça, des petits documentaires. Puis, à chaque fois, les gens m'en parlaient en me disant, attends, ben ouais, c'était inspirant ton affaire, on a bien aimé ça, puis ta, ta, ta. Ben, à un moment donné, la dernière en liste étant Tout le monde en parle en janvier dernier, là, je me suis dit, ben ouais, je vais essayer de surfer là-dessus, puis de me lancer, puis on verra ce que ça donne. Fait que c'est un projet, puis encore une fois, on verra ce que ça donne. Là,
ça commence le 9 novembre.
Ouais.
C'est où, le 9?
C'est à la ferme Guyon à Chambly, dans mon patelin, à Chambly, au coin des autoroutes 10 et 35. Un bel endroit à Chambly, là, la ferme Guyon. J'invite tout le monde à découvrir cet endroit. Donc, voilà.
Sinon, te rapproches-tu du 514 éventuellement? As-tu des dates de prévues? Ou...
Ah, ben là, on va commencer par le faire une fois. Okay. On verra le retentissement que ça aura. Puis après ça, peut-être qu'on évaluera une tournée internationale.
Oui, oui, tout à fait.
je fais des blagues, mais en fait, ce que j'aimerais, c'est que ça fonctionne, qu'il y a une bonne réception. Moi, j'aimerais que les gens viennent à Chambly parce que ça concerne beaucoup de gens.
Et monsieur,
aussi.
OK.
Donc, voilà, on verra. Là. Moi, je suis ouvert à toutes les bonnes offres aussi. Mais,
là, il y a un coefficient de difficulté que tu te donnes, mais en même temps, je comprends. Ça va au-delà de « je vous parle de ma basse vision ». C'est intriguant. Ouais. Et Serge, je ne donne vraiment pas l'impression d'être un peddler là, pour l'avoir rencontré 3-4 fois. J'en ai vu des conférenciers et j'ai pas ce sentiment-là avec Serge Chavoie. Bon succès, Serge.
Merci beaucoup, Luc.
Christiane s'en vient après la pause. Petite revue de presse.
Vous écoutez Accès libre.
Christiane Campagnan.
Luc Fortin.
C'est le moment de notre revue de presse.
Oui, et je vais encore vous parler de Domino.
Ben, j'allais te demander si tu allais nous raconter les bonnes nouvelles en provenance des USA.
C'est une bonne nouvelle, mais c'est pas une victoire totale non plus, là. C'est que la Cour suprême a refusé d'entendre l'appel de Domino. On se rappelle que Domino, qui est poursuivi par un usager, disait que l'American with Disability Act ne s'appliquait pas à eux puisqu'il s'agissait d'une loi de 1990 et qu'on n'y parlait pas d'Internet, qu'on n'y parlait que d'accès au commerce. Mais là, la décision de la Cour suprême ne vient pas avec un jugement parce que ce genre de décision-là, c'est juste qu'ils disent non, on ne prendra pas la cause, on retourne ça au tribunaux de niveau inférieur, si vous voulez. Mais ce serait quand même une bonne nouvelle. C'est une décision qui est favorable aux plaignants. La décision de la Cour suprême est une bonne nouvelle. L'utilisation de la technologie est un élément essentiel de la pleine participation de la vie de la communauté. Cette décision est un autre pas important pour garantir l'accessibilité à l'ère numérique, a déclaré Peter Burns, qui est le PDG du groupe de défense The Arc of United States. La Fédération nationale du commerce de détail, elle demande au Congrès d'établir une norme permanente. Parce qu'au fond, quand on fait une poursuite, on dit que ça ne supplie pas aux normes... j'ai oublié de les amener avec moi, le nom, là, c'est les normes internationales. Mais ces normes-là ne sont pas dans la loi en ce moment. C'est pour ça qu'on est dans le cas par cas et on est toujours avec les poursuites. Mmh. Et ce que dit la Fédération nationale du commerce, c'est que les décisions de différents juges peuvent parfois être contradictoires et que, au fond, ce qu'il faudrait, c'est mettre à jour la loi.
Mais est-ce que je comprends que, disons, en retournant vers un palier judiciaire inférieur, si un palier donnait raison à Domino's Pizza, là, on pourrait retourner à la Cour suprême et peut-être que là, il accepterait de voir le cas?
Peut-être, ou... mais je sais qu'il y avait eu une première décision favorable aux plaignants.
Ah oui.
Dans les cours inférieures.
C'est pour ça qu'on était jusqu'en Cour suprême. Okay, voilà. Ben oui, tu vas pas là pour rien. Là.
C'est ça. Donc, il y avait eu une décision favorable aux plaignants et Domino s'était tourné vers la Cour suprême pour dire oui, mais on nous dit qu'on respecte pas une loi qui parle pas nous.
Oh, plaignant, OK, c'était pas Domino's le plaignant dans ce cas-ci. OK.
Non, le plaignant, c'est un usager qui a voulu commander.
Qui disait, moi, je veux commander ma pizza, puis je suis pas capable.
Exactement.
Ah, OK. Fait que c'est pour le moment, en tout cas, mais ça veut pas dire que Domino's se sent obligé de changer son site web, là, c'est ce que je comprends.
C'est ça.
Eh boy, OK.
Voilà. Donc, à l'occasion de la Journée mondiale de la vue le 10 octobre dernier, Google a annoncé une nouvelle fonctionnalité pour son application Maps qui va permettre d'accompagner oralement et faciliter la vie des personnes qui ont un handicap visuel. D'ailleurs, Wakana Sugiyama, qui travaille chez Google, elle est elle-même non-voyante et elle explique que la nouveauté est la première de Google Maps à être construite à partir de zéro par et pour des personnes ayant un handicap visuel.
Comment tu fais pour savoir qu'elle explique ça? Moi, j'ai rien compris. Elle parle en japonais, la madame.
Ben, je
pense... Fie au texte.
Ouais. Oui, je me fie au texte.
D'accord. Mais tu sais que je l'ai essayé, hein?
C'est parce que dans les deux dernières semaines, j'ai dû tomber sur 3 articles par jour sur cette nouveauté-là.
Ouais,
quand Google fait quelque chose...
C'est ça. Même les non-handicapés s'intéressent à... C'est que quand c'est une en tout cas, eux autres, le GAMAF...
les GAFA.
GAFA. C'est ça, on aime ça. Mais c'est juste aux États-Unis puis juste au Japon.
Oui, pour le moment, en effet.
C'est un pas vers la...
Oui, puis on dit, c'est pas à négliger, que c'est aussi une option intéressante pour les personnes qui voient, mais qui voudraient se promener sans être toujours le nez fixé sur leur téléphone.
C'est vrai. C'est ce que j'ai lu, moi aussi.
Ça peut peut-être éviter des accidents aussi, dans ce sens-là. Parce qu'il y a des personnes... Quand une personne, le moindrement jeune, marche devant toi et se met à marcher très lentement... Tu sais forcément que la personne est au téléphone. C'est impossible, c'est jamais autre chose. Une fois, je suis tombée sur quelqu'un qui lisait en marchant.
Mais voir si quelqu'un, un voyant, va avoir une petite oreillette pour entendre son GPS parce qu'il n'a pas le goût de regarder son téléphone, il a le goût de regarder le soleil ou les petits oiseaux. Ça me sert.
Ben,
mais bon,
oui.
Qui sait? Qui sait?
J'imagine quelqu'un, par exemple, qui se promène à vélo, là.
Ah oui, OK. Ça se peut.
Tu veux avoir les mains libres.
Effectivement. Mais non.
Depuis le changement de... Je m'immisce dans la conversation. On a le droit en véhicule, depuis le changement de code de la sécurité routière, d'avoir un écouteur sur deux lorsqu'on est derrière le volant et aucun écouteur dans les oreilles lorsqu'on est à vélo. C'est maintenant interdit.
Ah oui, c'est vrai.
Donc l'exemple ne fonctionne pas, désolé.
Puis à trottinette, puis c'est pareil.
Mal certain que c'est la même chose.
Hey,
entre toi et moi, là, les nouveaux écouteurs d'Apple pour une fille, ils sont discrets. C'est tellement... Ou un garçon qui a les cheveux longs.
C'est pas plus gros que des boucles d'oreilles.
Okay. Un petit dernier, Christiane, avant qu'on aille vers Claudie?
Oui. En fait, il y a des personnes ayant des handicaps qui ont entrepris de poursuivre Immigration et Customs Enforcement, le fameux ICE américain, le département américain de la sécurité intérieure et un certain nombre de représentants du gouvernement, notamment parce que des personnes qui ont des handicaps, qui ont été emprisonnées pour des raisons d'immigration, se voient privées pendant une certaine période d'accommodement, d'accessibilité. Par exemple, quelqu'un qui avait besoin d'un fauteuil roulant et de béquille, et on lui confisquait.
Mais il n'est pas citoyen américain, je présume.
Non.
Parce qu'il veut immigrer. Alors, il s'est plaint à qui?
En fait, il y a vraiment une poursuite qui est une sorte... Il y a un plaignant principal, mais c'est vraiment comme une sorte de recours collectif, un peu, si on veut, là, en tout cas.
Fait que des non-américains pourraient utiliser la justice américaine pour revenir contre le gouvernement américain?
L'article ne se penchait pas sur ces détails-là. J'avoue que ça m'avait pas frappé.
Uh-huh.
Mais j'imagine que peut-être organismes de défense des droits peuvent le faire en leur nom.
Tu sais que je te pose la question, puis il me semble que c'est ça qui est arrivé à l'Amistad, où les esclaves qui avaient échoué sur les côtes de la Caroline avaient trouvé... Il y a un avocat qui avait pris leur cause, puis qu'ils avaient défendu, et les gars qui venaient de la Sierra Leone avaient gagné. par la justice américaine.
Écoutez, la prochaine fois que je viens de parler de droit, je vais faire rentrer François Brodeur avec moi.
Ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup, Christiane Campagnat.
Je t'en prie.
Claudie Deschaines, comment allez-vous?
Mais ça va bien, vous? Comment allez-vous?
Ça va très bien, merci. Est-ce que lorsque vous êtes en vélo, vous avez un ou deux écouteurs, vous, dans vos oreilles?
Ben là, avec le commentaire que j'ai entendu précédemment, je vais dire zéro.
Oui, ouais, non, mais dans vie, là, est-ce que ça vous oblige à changer vos habitudes ou...
Non, ça oblige à changer les habitudes, ouais, effectivement. Ouais.
Vous êtes directrice des programmes de santé mentale et de dépendance au 6 du Bas-Saint-Laurent. Je présume, c'est quoi? C'est Rimouski?
En fait, c'est beaucoup plus grand que Rimouski, le Bas-Saint-Laurent.
Oui, couvre. Mais vous êtes à Rimouski?
Moi, je suis un peu partout, je vous dirais, okay, parce que mon bureau à moi est dans la vallée de la Matapédia, donc je suis connexe à la Gaspésie, mais je couvre jusqu'à de l'autre côté de la Pocatière, donc je me ramène plus près de vous, là.
La raison pour qu'on voulait poser quelques questions à Claudie, c'est qu'il y a un nouveau programme qui a commencé au début de l'année. On voulait y donner un petit peu de temps pour avoir des résultats, c'est-à-dire des pères aidants pour épauler des personnes vivant des problèmes de santé mentale. L'idée, bon, je sais pas, j'imagine que vous n'êtes pas les premiers, mais pourquoi et comment avez-vous décidé, nous, là, c'est ça que ça nous prend, les pères aidants?
Bien, en fait, effectivement, vous l'avez bien mentionné d'entrée de jeu, on n'est pas les premiers. Hein. C'est quelque chose qui existe depuis déjà quelques années. Vous en avez déjà, d'ailleurs, dans le secteur, dans Montréal, il y en a à Québec également. Nous, en région, on n'en avait pas encore. Donc, évidemment, on est en train de regarder notre offre de service pour être le plus diversifié possible et répondre à tous les types de besoins. Et ça, c'était inévitable pour nous que ça devait se joindre à notre équipe, là, d'avoir un travailleur par aidant dans certaines équipes plus spécifiques. Que je vous dirais.
Comment trouver ces gens-là, d'autant plus qu'il y a une distance importante, ça prend des voitures, ça prend... faut les former, Donc, comment tout ça se structure?
Bien, en fait, c'est sûr que nous, ce qu'on a fait d'entrée de jeu, on aurait pu décider par le CIS d'embaucher des pères aidants, là, vraiment, au niveau de nos ressources humaines à nous. Ce qu'on a décidé, c'est d'aller innover, de faire différemment et de s'adjoindre d'un travail de collaboration avec des organismes communautaires en santé mentale, mm-hmm, pour qu'on puisse faire un partenariat intéressant. Donc, ces organismes-là côtoient déjà des gens qui sont aux prises avec des problématiques de santé mentale depuis bon nombre d'années. Donc, on a signé des ententes avec eux là, avant même l'embauche des pères aidants pour une entente gré à gré pour pouvoir avoir une embauche conjointe, je vous dirais, du père aidant qui va travailler autant dans l'organisme communautaire que chez nous. Fait que ça, c'est la première étape. Donc, on a eu à discuter, à voir comment on voulait mettre en place le travail de père aidant dans le territoire du Bas-Saint-Laurent. On voulait que ça goûte la couleur bas-laurentienne.
Oui, oui, oui.
Donc, évidemment, il a fallu essayer de voir un peu comment on allait construire tout ça ensemble. Une fois ça fait, ben on a lancé des appels à tous. On a fait vraiment une ouverture d'offres d'emploi et l'offre d'emploi était ouverte vraiment au sens large pour quelqu'un qui a déjà vécu une problématique de santé mentale et qui la vit toujours, qui a passé par nos services en santé mentale tant dans la communauté que dans le réseau public.
Okay. Donc quelqu'un qu'on connaît. Que vous connaissez.
Mais oui, effectivement, connaît, qui a passé par là, qui a vécu une approche de rétablissement lui-même, donc qui est en mesure de savoir un peu par où passe notre clientèle en santé mentale pour pouvoir venir les appuyer et les aider par la suite. Donc, le processus est à partir de ça, à partir des ouvertures d'offres d'emploi.
La durée, est-ce que c'est du 35 heures semaine? Est-ce qu'on les appelle seulement lorsque des rendez-vous parce que quelqu'un dit « moi, j'aurais besoin de rencontrer quelqu'un »?
Non, c'est vraiment un travailleur qui entre dans nos murs, qui fait partie de notre équipe dans la communauté auprès de nos intervenants en santé mentale, qui fait aussi partie de l'équipe des organismes communautaires avec qui on a fait les ententes. C'est évidemment pas des 35 heures. Vous comprendrez que ces personnes-là ont vécu des problématiques de santé mentale, sont en rétablissement présentement, mais on s'ajuste à leur capacité selon ce qu'ils sont en mesure de pouvoir offrir en termes d'heures. On ajuste les heures aussi selon leur capacité. Donc, on essaie d'être le plus flexible possible.
Est-ce que ça ajoute, j'imagine, du travail aux gens? En tout cas, il y a quelqu'un qui est payé pour coordonner ses pairs aidants maintenant. Donc, ça ajoute des coûts aux opérations des organismes?
Ben, en fait, ça ajoute pas tant de coûts. Au début, c'est un petit gain supplémentaire, je vous dirais, là, au niveau des organismes et au niveau de mes équipes aussi, parce que c'est une nouvelle vision et une nouvelle approche. Donc, il a fallu faire la promotion de ce qui était un père aidant, puis il a fallu essayer de voir à bonifier ce travail-là. Mais je vous dirais qu'aujourd'hui, tant l'organisme que mes équipes en santé mentale qui travaillent avec ce père aidant-là vous diraient qu'au contraire, le travail est moins lourd de par le fait que ça devient un collaborateur à part entière. Donc, cette personne-là voit des gens, fait du suivi sur le terrain, fait partie de l'équipe, fait partie des discussions cliniques. Donc, c'est drôlement intéressant d'avoir un nouveau point de vue puis une nouvelle expérience autour de la table.
Mais un programme comme celui-là, c'est d'abord au ministère de la Santé et des Services sociaux que l'on s'adresse pour avoir les sommes?
En fait, c'est un programme qui est prôné par le ministère.
Okay,
donc,
okay,
si vous allez lire, là, si vous cherchez le plan d'action en santé mentale reconnu du ministère, le dernier plan d'action qui est sorti, vous allez voir que c'est prôné, okay. C'est reconnu comme pratique l'utilisation des pères aidants. Maintenant, comment moi, au Bas-Saint-Laurent, je l'ai mis en place? Ben, j'ai fait des restructurations, j'ai regardé à même mes propres équipes pour m'auto-financer des pères aidants parce que j'y croyais, parce que nos équipes y croient aussi. Donc, c'est le site du Bas-Saint-Laurent qui a financé des pères aidants au moment où on se parle.
Le mot en question, c'est Claudie Deschaines, qui est directrice des programmes de santé mentale et dépendance au CIS Bas-Saint-Laurent. Bon, là, ça a démarré, ça, l'hiver dernier. Parlez-moi un petit peu de la progression, ce que vous pensiez qui était pour être ce que c'est devenu, finalement.
Bien, en fait, nous, on savait que ça serait un gain pour l'équipe, mais il a fallu quand même le vendre. Hein? Je ne vous mentirai pas que c'est une nouvelle approche, une nouvelle façon de travailler. Donc, il a fallu faire, comme je vous le disais tout à l'heure, de la promotion auprès de nos équipes, s'assurer que l'intégration de ces personnes-là au sein des équipes soit saine également. Donc, ça a été de l'ajustement dans les premiers mois.
Le changement, on n'aime pas ça. Ouais.
Ben, exact. Le changement, ça fait réagir. C'est humain.
Ouais,
donc,
il
a fallu accompagner le changement. On l'accompagne toujours, mais déjà, on sent la fluidité qui s'est installée. Il a fallu aussi définir le rôle, bien évidemment, de ce qu'allait faire ce père aidant-là, de lui donner aussi ses marges de manœuvre, comment il pouvait fonctionner. On l'a aussi accompagné à aller se faire former, parce que on peut pas envoyer le père aidant dans n'importe quelle situation sans formation associée. Donc, ça a été quand même quelques mois, je vous dirais, d'adaptation pour mettre en place là, les grands pans de mur qui étaient nécessaires pour pouvoir bâtir ce service-là.
Plus long que la présomption de départ?
Non, pas
non?
plus long
okay.
que la présomption de départ. Même au contraire, là, je vous dirais qu'on est vraiment rentré dans les balises qu'on s'était fixées au départ. C'est un 2 à 3 mois, là, je vous dirais, le temps de faire les formations, de l'intégration aux équipes, de s'ajuster aussi dans les références, dans quel type de clientèle ils vont suivre. Donc, ça a été, c'est ça, quelques mois, 2 à 3 mois, je vous dirais. Et depuis, ça roule bien. Les pères aidants qu'on a embauchés sont très, très satisfaits.
Oui, justement, si je vous demande combien en avez-vous embauché, le savez-vous? C'est pas grave si vous me dites que vous ne le savez pas, là, mais...
Ah non, je le sais, okay. Parce que nous, on veut que chaque territoire émercé de notre région soit couvert. Par contre, on a voulu débuter avec un projet plus de type pilote pour s'assurer de bien camper tout ça, bien camper le rôle. Donc, on en a 2 au Bas-Saint-Laurent, là, au moment où on se parle.
Oh, OK, c'est pas beaucoup.
En tout cas,
moi, ça ne m'apparaît pas beaucoup. OK, OK.
Mais c'est très peu, effectivement.
Ouais. Vous souhaitez vous rendre à combien, là, je ne sais pas combien de MRC dans la région
Au Bas-Saint-Laurent, on a 8 MRC.
8, OK. Donc
peut-être
16.
Évidemment, vous avez compris que je souhaiterais en avoir un par territoire MRC à terme. Donc, c'est 8 mon chiffre dans mon objectif.
Et vous vous donnez combien de temps pour l'atteindre?
Bien, on s'était donné un projet pilote de 2 ans.
Okay.
On a une première année qui est sous le point de se terminer et on va se faire un bilan là, plus approfondi. Mais je vous dirais que déjà, je vois des retombées positives. Dans la prochaine année, on va commencer à élaborer là, les projets pour la suite des choses. Là. Donc, d'ici un 4 ans, on devrait pouvoir bonifier tout ça.
Merci d'avoir dérogé à votre heure de dîner. Bon succès dans la continuité de ce projet-là. Et merci d'avoir été là.
Merci beaucoup, M. Fortin. Bonne journée.
Claudie Deschaines, directrice des programmes de santé mentale et dépendance du côté du CIS du Bas-Saint-Laurent. What's the plan, Stan? Guess what, chicken butt? I do the hoop-a-ba-ba. Woo! I do the hoop-a-ba-ba. Like a hoop? Ha. I do the hoop-a-ba-ba.
pa.
J'aime ça au bout. Ça sonne tellement américain. Valère, avec Golden Rule. Sur Canal M, la radio de Vues et Voix. Julien Renaud, bonjour.
Bonjour, M. Fortin.
Ah, Luc, s'il te plaît. Comment vas-tu, Julien? Ça fait longtemps que je voulais te parler. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. À un moment donné, c'était comme, ben oui, on veut y parler. Puis là, il est arrivé de quoi? Puis j'ai oublié que je voulais parler à Julien. Puis là, Christiane, la recherchiste, t'as ressorti des boulamites vendredi. Puis j'ai fait, yeah, Julien Renaud.
L'important, c'est qu'on se parle aujourd'hui.
Ben, tout à fait. En fait, journaliste, chroniqueur, il y en a qui diraient chronaliste au Saguenay?
Journaliste et chroniqueur. J'aime mieux prendre les deux mots séparés, là, mais oui, je fais un petit peu des deux.
Ouais. La raison surtout qui nous a frappé, nous, c'est lorsque tu t'es baladé autant du côté de l'arrondissement de Chicoutimi, Jonquière, La Baie, il y a justement des bulletins à chaque fois. Est-ce que, bon... Tu disais que c'est Chicoutimi qui avait eu les meilleures notes, bien que, un peu comme le scrutin d'aujourd'hui, c'est peut-être le moins pire et non le mieux. Est-ce que tu as eu des échos depuis ces articles-là? Est-ce qu'il y a eu des, je sais pas moi, des dirigeants municipaux, des commerçants qui ont dit « c'est bien trop vrai, on va essayer de changer quelque chose ».
Oui, effectivement, j'ai eu quand même beaucoup de retours et des deux volets. Au niveau municipal, vendredi, j'ai passé 1h30 là, avec la mairesse et la responsable là, du plan d'action pour l'intégration des personnes handicapées du Saguenay. Donc, on avait imprimé les chroniques, puis on s'est discuté dans le blanc des yeux pendant 1h30, voir c'était quoi les manquements, qu'est-ce qui pouvait être fait aussi. C'est sûr qu'il y a toujours là, des limites au niveau des moyens des municipalités. Ouais. Donc, c'est de voir un petit peu quelles seraient les priorités les moins chères, les petites aberrations faciles à régler que j'avais constatées. Et de voir aussi là, la volonté générale de la ville là, qui m'a rassuré quand même beaucoup sur le désir d'en faire de plus en plus. Il y a un gros retard à rattraper ici. Puis au niveau commercial, là, j'ai plusieurs commerçants qui m'ont téléphoné ou écrit me dire « Hey, j'avais jamais pensé à ça. Une chance que tu as mis mon nom ou ma photo dans le journal en disant que je suis pas adapté. Je fais des téléphones, je regarde ce que je peux faire. J'avais jamais pensé à ça. »
Donc, ça a bien passé en général. Les gens ne l'ont pas pris perso. Là.
J'ai quelques personnes qui n'étaient pas contentes d'avoir été nommées ou d'être là. C'est sûr qu'il y en a toujours, mais globalement, ça a été bien accueilli. Puis, je sens une belle volonté. Puis, c'était beaucoup plus une méconnaissance là, qu'une mauvaise volonté là, envers les personnes handicapées.
Ouais. Ce qui est particulier, par contre, c'est qu'il y a quand même une différence entre un arrondissement et l'autre en ce sens qu'il y a des services publics qui sont mieux adaptés dans certains arrondissements, alors qu'on pourrait penser que ben, tout ça est comparable d'un lieu à l'autre. Il y a des bannières, bon, je pense à Desjardins, malgré que c'est vrai que les caisses Desjardins se gèrent un peu plus de façon autonome, mais il y a quand même des bannières importantes qui ne sont pas accessibles. Est-ce que tu sens que, disons, s'il y a des changements, il va y avoir des changements à un endroit où on va peut-être essayer de modifier chacun des endroits de la région qui sont soit sous la même bannière ou sous le même service? Je pense à la SAQ ou...
L'exemple de Desjardins est très à point parce que j'ai eu une discussion avec eux vendredi matin également. Le bureau que j'ai nommé, c'était à La Baie, a appelé là, la direction régionale, donc toutes les cases du Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on réagit, est-ce qu'on fait un diagnostic des caisses. Donc oui, au niveau de Desjardins, je sais qu'il y a un diagnostic régional qui va être fait pour améliorer l'accessibilité de toutes les caisses de la région. Wow. Donc, j'en ai nommé une à La Baie et les résultats vont être partout dans la région. Donc ça, c'est un bon exemple. Au niveau commercial, c'est sûr que c'est à chaque commerçant privé de faire ses démarches à lui et de voir sa volonté à lui. Donc là, c'est plus difficile de faire des suivis par rapport à ça, mais j'ai quand même déjà là, des gens qui m'ont dit qu'ils allaient faire des efforts. Au niveau de la ville, oui, il y a, c'est pas pareil dans chaque arrondissement. Il y a des problèmes différents. Il faut dire que tout ce qui est nouvelle infrastructure est bien fait. Maintenant, quand on construit quelque chose ou on fait une rénovation, on essaie de rendre l'accessibilité universelle. Il y a des vieux bâtiments qu'on a depuis 50, 60 ans où il y a les conseils de ville, tout ça, que dans le temps, ça n'avait pas été une préoccupation. Là, c'est d'évaluer est-ce que les coûts sont trop gros. Je sais que l'hôtel de ville de Saguenay, par exemple, à Chicoutimi, ça serait des coûts là, impossibles là, pour la ville à justifier pour seulement donner l'accès aux séances du conseil. Ouais. Et puis la mairesse me disait, est-ce que c'est mieux que je mette de l'argent pour adapter la séance du conseil pour rendre ça accessible ou je mette ça dans les trottoirs pour que les gens circulent facilement dans les centres-villes, dans les parcs, tout ça. Donc oui, c'est toujours une question de priorité. Mais il va y avoir là, un plus grand diagnostic au niveau de la ville aussi. Ils m'ont invité à participer là, à un comité également là, consultatif. Donc, il y a vraiment des retombées là, à ma tournée de 18 heures dans les centres-villes de Saguenay puis dans les lieux d'intérêt.
Le milieu associatif du côté de Saguenay, est-ce qu'il est vibrant? Est-ce que tu crois pouvoir t'entourer parce que tu ne veux pas nécessairement devenir, à moins que tu aies envie, là, mais je veux dire, il y a Linda ici, là, Linda Gauthier, qui aime ça en avoir beaucoup sur ses épaules, mais c'est pas tout le monde qui est une Linda. Veux-tu devenir le porte-étendard qui va être celui par qui tout va, disons, modifier?
Je veux pas faire ça tout seul, c'est sûr. Moi, j'ai quelque chose que plusieurs n'ont pas, et c'est la voix à la tribune les médias. Donc ça, je la mets au service des gens, mais je suis toujours en discussion avec beaucoup d'organismes là, actifs et qui sont très proactifs là, dans la région. Pour les personnes handicapées, je siège sur certains conseils d'administration aussi. Donc, quand je parle, des fois, je parle en leur nom aussi, puis j'essaie de faire le lien. Il y a déjà un comité consultatif avec un représentant de chaque organisme là, à la ville. On va m'ajouter donc à ce comité-là pour que je m'occupe un peu plus de ce qui est communication. Essayer aussi, là, parce que souvent, les organismes sont beaucoup plus, la clientèle est beaucoup plus en déficience intellectuelle que physique. Okay. Quelqu'un comme moi qui n'a aucune déficience intellectuelle, ben, veut être plus actif dans les commerces, le magasinage, tout ça. Puis les organismes nous rejoignent moins. Alors, moi, j'ai beaucoup d'amis là, handicapés physiques uniquement qui veulent aussi en faire plus, qui se butent à beaucoup d'obstacles. Donc, on va se créer un petit comité aussi là, pour travailler là-dessus. Mais c'est sûr que ça va être un effort collectif là, pour arriver là, à des résultats concrets.
Par ailleurs, il y a tellement d'articles que j'ai lus sur le sujet. Est-ce que toi, tu t'es penché sur le dossier du transport adapté? Est-ce que tu as écrit là-dessus? Est-ce que ça va être aussi un cheval de bataille pour Julien Renault? Comme je dis, tu peux pas tout faire.
Moi, je ne suis pas un usager du transport adapté. Okay. J'ai mon véhicule adapté. Mais oui, je côtoie beaucoup de personnes qui le font et les organismes sont très dépendants de ça pour les activités de fin de semaine et de soir. C'est une grande problématique présentement en Saguenay. Ouais. C'est pas mal un des dossiers chauds depuis quelques mois ici en raison de la pénurie de chauffeurs qui fait qu'ils ont été obligés de couper dans les services. Donc oui, j'en ai reparlé avec Mme Néron, la mairesse de Saguenay, vendredi aussi. La ville travaille très fort sur ce dossier-là, est en train de voir pour renégocier les contrôles avec la société de transport. Donc oui, c'est un combat que je garde à l'œil et que j'essaie d'aider là, à faire avancer, là, même si c'est peut-être quelque chose là, qui me rejoint moins personnellement.
Je ne sais pas, dans votre coin, chez nous, le prochain scrutin municipal, c'est en 2021. Avec des contacts et des modifications, est-ce que si Mme Néron, à un moment donné, te courtise, tu pourrais être intéressée par la politique municipale?
Non, absolument pas. Je suis journaliste dans l'âme et encore trop jeune pour faire un changement. La politique m'intéresse, mais par intérêt, je garde un œil là-dessus. J'aime ça, suivre ça, mais je suis journaliste avant tout. Puis, j'espère l'être encore longtemps. Là. Donc, non, c'est
mais
pas
on te
dans
le souhaite.
Les projets.
Merci beaucoup d'avoir été là, Julien. J'ai plus de temps, mais ça a été agréable.
Merci, Luc. Au revoir.
Julien Renault, donc, journaliste du côté de Saguenay. J'ai pas demandé. Des fois, j'ai des articles du Progrès, d'autres fois du Quotidien. Enfin, bref, vous pouvez le lire là-bas. Jean-Sébastien, merci beaucoup.
Grand plaisir.
Merci à Christiane également, Eddy Mestre et recherchiste. Vous, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière du mois d'octobre déjà.